augmente graduellement. Et vous voyez qu'entre Mars et Jupiter, il y a un saut, si on peut dire. Et au fait, là, au milieu, il y a la ceinture des astéroïdes, dont on avait aussi parlé la dernière fois, et à laquelle on s'intéresse beaucoup parce que il y en a une quantité indéterminée, disons 100 000. Quand on ne sait pas combien dire, on dit 100 000. Et ils sont tous potentiellement dangereux pour la Terre. C'est-à-dire, le premier qui fait un écart pour une raison quelconque pourrait nous tomber dessus. C'est arrivé dans le passé. Bon, ça ne va pas arriver demain, mais on essaie de les regarder. Les températures, donc la première colonne est la même, sont les dimensions. Les températures sont intéressantes aussi parce qu'on va voir sous peu que c'est en fonction de la température que les gaz plus légers restent ou non sur une planète. Donc, en gros, on dit que les températures vont de 450 degrés pour les planètes les plus proches du Soleil à moins de 100 degrés pour les planètes plus éloignées. Il est clair, déjà intuitivement, que des planètes qui ont des températures en dessous de 100 degrés ne peuvent pas avoir d'eau. Et des planètes qui ont des températures en dessous de 0 degrés également ne peuvent pas avoir d'eau, mais peuvent avoir de la glace en revanche. Alors, là on rentre dans le sujet de la conférence. Quand on explore les planètes solaires, les systèmes solaires, on voit quand même une grande diversité. Il n'y a pas deux planètes qui soient vraiment l'un pareil à l'autre. Et on peut se demander le pourquoi de telle diversité. Donc, repartons de la source, c'est-à-dire allons voir la matière première avec laquelle le système solaire a été construit. On prend un bateau de pêche, on va dans l'espace. On ne va pas où il n'y a rien, hein, parce que, comme le bon pêcheur, on va jeter un bon filet, là, dans ce nuage où il y a un peu de tout, si on peut dire. Hein. Il y a de la fumée, il y a des atomes, etc. Et regardons, qu'est-ce qu'on trouve? Disons, si on a un filet d'environ, 20 km, 200 mètres de côté, probablement, on capture environ 10 000 atomes, 12 000 disons. Et on regarde qu'est-ce qu'on a pris, et on trouve que finalement il n'y en a que 6 en quantité appréciable. Et encore en quantité appréciable, vous voyez, c'est 1 sur 12 000, c'est quand même une quantité minime. Et tous les autres, les fer, l'or, l'argent, l'uranium, etc., ils sont en quantité négligeable. Donc déjà, si on veut bâtir un système solaire, si vous voulez, c'est pas la peine de se soucier des éléments qui sont en quantité négligeable. Il faut qu'on fasse avec ces six éléments-là. Ce sont nos briques. Entre parenthèses, non seulement ils sont que six, mais vous voyez une prépondérance énorme de l'hydrogène et de l'hélium. Alors, l'hélium en plus, c'est un gaz noble, c'est-à-dire qu'il réagit avec rien, il fait rien, donc c'est même pas utilisable pour la construction. Les mêmes proportions, donc les six éléments que vous avez vus, on les retrouve partout. On les retrouve dans le Soleil, on les retrouve dans les planètes géantes, on les retrouve dans les comètes, on les retrouve dans notre corps, et aussi on les retrouve dans les liquides les plus répandus. Quels sont ces liquides? À gauche, en haut, j'ai répété les six éléments, si vous voulez. Et maintenant, on peut faire un petit jeu. Si je veux faire un liquide, je prends l'hydrogène, je vais voir, je peux le combiner avec l'oxygène, je fais de l'eau, je peux le combiner avec le carbone, je fais du méthane, je peux le combiner avec l'azote, je fais de l'ammoniac. D'accord? Le CO2, lui, qui ferait aussi partie de cette... ceux qui sont en jaune sont les gaz nobles, donc ils font pas de liquide. Le CO2, je l'ai mis en grisé, parce que finalement, il n'est jamais à l'état liquide. Il passe directement de l'état de glace à l'état gazeux. Donc, il ne fait pas partie de ce premier groupe. Quant à l'acide à l'anhydride sulfureuse, et bon, l'oxyde de silicium, lui, c'est la roche. Hein, donc, vous voyez, il devient liquide à presque 2000 degrés. Quant à l'acide sulfurique, c'est quand même un liquide intéressant, pas dans notre cas, mais dans un autre monde peut-être, il pourrait faire la fonction de l'eau. C'est-à-dire, on pourrait imaginer une chimie de la vie qui, au lieu d'être basée sur le carbone et sur l'eau, est basée sur le silicium et sur l'anhydride sulfureuse. Donc, pourquoi je m'intéresse tellement au liquide? Ben, le jour où on arrivera à parler de la vie, on verra que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du liquide. Même sur Terre, même quand il semble qu'il y ait de la mousse ou quelque chose qui vient sur un rocher, etc., c'est toujours dans une mince couche d'eau qui se dépose, si vous voulez, sur le sol, etc. Et là-dedans, il y a de la vie végétale, animale, etc. Il y a des raisons sur lesquelles je ne m'éternise pas maintenant, mais disons... Pour qu'il y ait de la vie, il faut que des molécules puissent se rencontrer, interagir, etc., comme les gens. Et tout ça, dans un gaz, ça ne peut pas se faire parce que les densités sont trop faibles. Vous voyez, si vous étiez un gaz au lieu d'être des âmes sur la Terre, avant de rencontrer votre âme sœur, vous auriez du temps à passer. Et les solides, dans les solides, les atomes et les molécules sont emprisonnés. Donc peut-être vous voyez quelqu'un de sympathique à côté, mais vous ne pouvez pas bouger. Donc, ils font un liquide. C'est pour ça que, maintenant, saut logique. On quitte pour un instant la formation du système solaire et on se pose une autre question à côté. C'est-à-dire, bon, on a vu quels sont les éléments qu'on trouve les plus, avec la plus grande abondance dans le cosmos, mais on ne s'est pas demandé d'où viennent ces éléments. Alors maintenant, on va se les demander. Et, bon, il y a ceux qui disent qu'ils ont toujours été là, il y a ceux qui disent qu'ils ont été créés, n'est-ce pas? Et puis, il y a les physiciens qui inventent des théories, comme la théorie du Big Bang et autres, et qui vont essayer d'expliquer comment ces éléments se sont formés. Seulement, la théorie du Big Bang, on va voir tout de suite, n'explique pas les atomes plus compliqués. Tout le monde à peu près sait qu'un atome est fait de noyaux où il y a des boules plus lourdes, qui sont de deux types, neutrons et protons, enveloppés d'un nuage d'électrons qu'on peut imaginer comme des guêpes enragées qui tournent autour. Mais si on prend la théorie du Big Bang, que je rappelle est une théorie, c'est-à-dire n'est pas une vérité, les théories scientifiques se basent sur des hypothèses complètement arbitraires, sur lesquelles on tricote mathématiquement, jusqu'à tirer des conséquences. Après, on va voir si les conséquences sont bonnes ou pas, mais... Il n'y a rien de, c'est pas une vérité révélée, ce n'est pas une religion, rien du tout. Si le jour on trouve que la théorie du Big Bang ne marche plus, on en fait une autre. Sans état d'âme. Donc, si on se tient à la théorie du Big Bang, la date, vous la voyez au moins, il y a 15,5 milliards d'années. Au début, il y avait une grande confusion. Donc on va pas se plonger là-dedans. Des particules de toutes sortes, des antiparticules, etc. Il faut attendre un tout petit peu, 3 minutes, pour que la température atteigne une valeur d'un million de degrés. Alors, c'est quand même une température inhabituelle pour nous, mais on peut commencer à raisonner, c'est-à-dire on peut commencer à demander qu'est-ce qui se passe à un million de degrés. Bon, ce qui se passe, c'est que quelques-unes des particules qui voyageaient partout peuvent quand même se retrouver ensemble. Pas toutes, on va voir, mais c'est quand même une température assez élevée pour pas qu'on puisse encore former des atomes, c'est-à-dire quelque chose comme la figure que vous avez en bas, parce que en dessous d'une température de quelques milliers de degrés, les électrons s'en vont de l'atome, ils ne restent pas collés au noyau. On va voir ça d'un peu plus près. Il y a une autre date qui est un peu intéressante. 300 000 ans, c'est le temps pour que la température descende à quelques milliers de degrés. Et à ce moment-là, les électrons peuvent se coller aux atomes, au noyau, et former des atomes. À ce moment même, les électrons libèrent l'espace, si vous voulez, pour la propagation de la lumière. Avant, dès qu'un photon essayait de se déplacer un peu, il cognait sur un électron. Il était stoppé, puis il était réémis, etc. Donc, on dit que l'univers était opaque. Alors, moi, j'ai mis Fiat Lux, c'est une blague, hein, disons, on pourrait imaginer que la lumière, en tout cas, est partie à ce moment-là. Et c'est celle qu'on retrouve comme radiation de fond cosmique, etc. Alors, prenons un proton. Et on a dit qu'à 3 à 4 000 degrés, ce proton peut capturer un électron. Et on obtient, tralala, un atome d'hydrogène. D'accord? Alors, ça, c'est très simple, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'hydrogène. Si on veut faire plus compliqué, le jeu devient un peu plus lourd. Déjà, si on dit, je vais faire, par exemple, je vais essayer de coller un neutron au proton. Qu'est-ce que veut dire coller? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre deux particules dans les noyaux, c'est-à-dire un proton, un neutron, il y a une force énorme, mais qui agit sur une distance très très faible. Alors, pour ne pas se compliquer la vie, on va l'appeler du velcro. Hein. Donc, un neutron heurte un proton, il peut faire un noyau composite avant ou après que l'atome capture son électron. On a ce qu'on appelle un isotope, c'est-à-dire un élément qui est sous toute forme équivalent à l'hydrogène. Il occupe la même place dans les tableaux périodiques de Mendeleïev, dans tous les éléments, mais il est un peu plus lourd. Dans l'eau de mer, un atome d'hydrogène sur 10 000 est de cette forme-là. Et les gens qui font des carottes au pôle Nord, en regardant la glace, si vous voulez, les stratus de glace, peuvent déterminer la température parce que dans l'évaporation de l'eau de mer, le deutérium étant un peu plus lourd, il évapore quand même plus lentement. Donc plus il y a de deutérium, plus il faisait chaud. Et là, on arrive, si on colle un autre neutron, on arrive à quelque chose d'intéressant. Peut-être quelqu'un d'entre vous en a entendu parler lors de la conférence sur ITER. C'est le tritium, donc un autre isotope de l'hydrogène. Seulement celui-là, il n'est pas stable. On dit qu'il est radioactif. En 12 ans et demi à peu près, la moitié des atomes de tritium perdent un neutron. Alors là aussi, petite précision, qu'est-ce que veut dire perdre un neutron? Ça veut dire que le lien casse. Mais comme c'est un lien fort, c'est comme si vous avez un paquet avec un élastique, et l'élastique casse et vous saute à la figure. Ça fait mal. Donc les éléments radioactifs sont dangereux. Maintenant, jusqu'ici, on a joué avec les isotopes, mais finalement, on n'avait toujours qu'un proton. Donc, on n'avait toujours qu'un type d'atome, qu'on appelle hydrogène, deutérium, etc. C'est toujours le même. Si on veut faire un peu plus compliqué, il faut qu'on fasse au moins un atome avec deux protons. Seulement, voilà, deux protons, si on essaye de les rapprocher, ils se repoussent avec une force de 26 kilos. Ce qui voudrait dire, si vous les ramenez à la taille d'une boule de pétanque, il faut poser le Mont Blanc par-dessus la deuxième boule pour la tenir collée à l'autre. Donc, solution, il faut du velcro. Si on met deux neutrons qui n'ont pas eux de charge électrique, donc ils ne se repoussent pas, vous voyez, on colle tac et tac, et finalement le noyau tient en place. Seulement, on a la clé maintenant de nos abondances relatives d'éléments, parce que imaginez dans un soupe primordiale où tout court de tous les côtés, il faut que quatre boules du bon type, 2 et 2, cognent au même instant et collent ensemble pour faire un noyau d'hélium. Bon, c'est déjà un bon succès, mais si on veut aller plus loin, c'est-à-dire commencer à faire des atomes à 4, 5, etc., ça devient vraiment impossible. C'est-à-dire qu'il y en a, mais c'est même pas la peine d'essayer. Entre autres, un des succès de la théorie du Big Bang, c'est d'expliquer correctement la proportion entre hydrogène et hélium, c'est 75% et 25%, qu'on l'a retrouve partout. Donc, pour moi, on tient une explication. Donc, dans notre univers d'origine, finalement, on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium. De là à fabriquer quelque chose, il y a plusieurs étapes. On peut imaginer quand même que toutes ces matières dispersées dans l'univers, à un moment donné, se condensent en formant de jolis nuages bleus, etc. Et déjà, on voit un phénomène qu'on va retrouver toujours, c'est-à-dire la danse cosmique. À chaque fois que quelque chose se condense ou se rapproche dans le cosmos, ça commence à tourner. Tout tourne, hein, c'est la valse. Oui. Alors, je vous invite à faire l'essai. Si vous avez quelque chose avec une ficelle, je l'aime, c'est dans le sac, vous faites tourner autour de votre doigt, vous remarquerez que plus le rayon se réduit et plus l'objet tourne rapidement. Donc non seulement tout tourne autour d'un centre commun, mais ça tourne beaucoup plus vite au milieu, au centre. Cette condensation se transforme finalement en chaleur. Pourquoi? Bon, un peu les objets frottent les uns contre les autres, un peu c'est l'effet même de condenser, donc cette force qui retient les objets à distance, une fois qu'elle est ramenée vers un centre commun, ça génère des températures très très élevées. Et au moment où cette température arrive à peu près à 10 millions de degrés, s'il y a une densité suffisante, par exemple au centre d'une nébuleuse, on a le démarrage de la fusion nucléaire, c'est-à-dire les atomes d'hélium commencent à se composer les uns avec les autres. 4 atomes d'hydrogène donnent un noyau, un atome d'hélium. Tout ça, on peut le voir encore aujourd'hui, il suffit de retrouver la bonne nébuleuse. Vous voyez, elle est pleine d'étoiles partout. Donc ça veut dire que dans une spirale comme ça, il y a différents noyaux de condensation qui forment autant d'étoiles, des milliards et des milliards d'ailleurs. Question suivante, est-ce que ces étoiles ont toutes la même taille? La réponse est non. Comme toujours, il y en a beaucoup de petites et très peu de grandes. Dans les grandes, on peut dire qu'il y a un autre soleil, une étoile médio-grande. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que plus une étoile est grande, et plus sa vie est courte. Pourquoi? Eh bien, c'est comme le flambeur. Hein. Vous voulez mener une vie échevelée, vous voulez courir à tous les côtés, vous voulez faire la diva, etc. Eh bien, vous mourrez plus tôt. Donc, les étoiles les plus massives doivent brûler beaucoup plus, en dépit du fait qu'elles ont beaucoup plus de combustible, elles doivent brûler tout ça beaucoup plus vite, et elles ont des vies qui n'arrivent même pas... Oula, il y a une erreur là. Pardon. Les deux lignes en haut... Ah non, pardon, c'est bon. Alors, elle est en sens inverse. Alors, là, on a les étoiles petites. Et donc, on prend toujours comme référence ce qu'on connaît. Donc, on prend le Soleil, une masse solaire, 10 milliards de vies, 10 milliards d'années de vie. Notre Soleil en a déjà vécu la moitié, si vous voulez. On prend maintenant des étoiles qui nous intéressent, c'est-à-dire 10 fois ou 50 fois la masse du Soleil, vous voyez, ça se mesure en millions d'années, même pas en demi-million d'années. Ça, c'est un temps zéro en termes cosmiques. Et ce qui est intéressant, déjà, vous voyez, on a eu de la chance, parce que si notre système solaire avait été autour d'une étoile comme ça, bon, ça fait longtemps que l'étoile serait morte, et nous avec. En plus, quand on verra la vie sur Terre, on verra qu'il a fallu 4 milliards d'années, environ 3 milliards et demi, pour arriver à notre espèce très savante. Donc, il faut aussi une étoile qui dure assez longtemps. D'un autre côté, si l'étoile est trop petite, eh bien, elle est rouge, hein, elle donne pas beaucoup de chaleur. Donc, on peut dire que le Soleil plus et des étoiles qui ressemblent au Soleil sont vraiment les étoiles idéales pour donner origine à la vie. Quand ces étoiles meurent, ça c'est le sujet d'une autre conférence, hein, ce serait la chimie, la vie et la mort des étoiles, mais il faut quand même qu'on passe par là rapidement. Donc les étoiles qui sont vraiment grandes, c'est-à-dire plus que 8 fois la masse du Soleil, au lieu de mourir tout doucement, quand elles ont fini leur combustible, elles explosent. Mais elles explosent dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que imaginez une bombe nucléaire à l'hydrogène qui ne compte que quelques kilos. Maintenant, prenez une étoile avec 8 fois la masse du Soleil et faites-la exploser et vous verrez qu'est-ce que ça donne. Et c'est cette explosion qu'on appelle supernova, c'est-à-dire on en voit pas beaucoup, mais on en voit dans le ciel. Et il y en a environ 3 tous les 100 ans dans notre galaxie. Ça fait pas beaucoup, mais en 12 milliards d'années, si vous voulez, ça fait quand même de quoi fabriquer quelques millions de systèmes solaires. Pourquoi fabriquer des systèmes solaires? Parce que c'est dans l'instant de cette explosion que tout autour de l'étoile qui explose, il se branche, je ne sais pas le terme en français, il y a des réactions nucléaires de toutes sortes qui démarrent, non plus seulement l'hydrogène qui se combine avec de l'hydrogène pour donner de l'hélium. Non, il y a tous les éléments qui se combinent avec tous les éléments pour donner tous les éléments connus. Et en effet, voilà une explosion. Et voilà à gauche, c'est la nébuleuse du crabe. C'est le reste de l'étoile que les Chinois ont remarqué en 1054 et qu'en Europe et ailleurs, si vous voulez, à l'ouest, personne n'a vu. Et c'est en mesurant maintenant, bon, en prenant à peu près leur indication de la zone où cette étoile était, et puis en mesurant la vitesse des gaz qui s'éloignent du centre, on peut reconstituer la date de l'explosion. Et donc c'est la supernova de 1054. Maintenant, avec toutes ces explosions, si vous voulez, les nébuleuses ne sont plus si transparentes et si bleues qu'on l'avait montré au départ. Parce qu'il y a de la fumée, il y a des débris, il y a des restes de toutes sortes. Et on les voit bien. Celle en haut à gauche pourrait être une photo prise du côté de notre galaxie. Et il y en a bien d'autres. Hein. Quand on va regarder, il y en a des centaines de photos comme ça. Ou alors, on voit, par exemple, sur un fond d'étoile brillante, on voit une tache noire. Qu'est-ce que c'est? C'est de la fumée, c'est de la poussière, tout ce que vous voulez. Un globule, si vous voulez. une de ces régions où, cette fois, il y a tous les éléments. Il y a des petits granules de poussière, il y a les éléments légers, il y a les éléments lourds, etc., peut recevoir une grosse poussée par une explosion à proximité, une nouvelle explosion, si vous voulez. Et donc, peut commencer à se condenser à son tour. En se condensant, elle tourne, elle se réchauffe au milieu, etc., jusqu'au moment où, au centre de cette nébuleuse qu'on appelle protoplanétaire ou protosolaire, comme on veut, on atteint la température fatidique de 10 et quelques millions de degrés pour allumer un autre soleil. Cette fois, c'est le nôtre. Et comme quand on fait la soupe, hein, à la périphérie, il y a des grumeaux. Ce disque n'est pas tout à fait homogène. Et donc, indépendamment de la condensation au centre, tout autour, il peut y avoir des autres condensations qui procèdent en parallèle, c'est-à-dire un petit rocher, puis plus grand, des collisions. Je n'ai pas pris les images de la surface de la Lune ou de Mars, etc., ou de Mercure, mais vous savez qu'ils sont complètement parsemés de cratères. Donc, c'est la signature de la période des collisions intenses. Donc, voyons ce qu'on a dit jusqu'ici. On a dit que à un stade précoce du Big Bang, il se forme des éléments légers, en bonne substance, l'hélium et l'hydrogène. Ensuite, ces éléments légers peuvent se condenser pour donner une nébuleuse de première génération qui forme des étoiles. Quelques-unes de ces étoiles, les plus grandes, explosent et à ce moment-là produisent tous les autres éléments chimiques. Entre parenthèses, notre Soleil ne va pas exploser, il va mourir tout doucement. Il va devenir un charbon ardent, en soufflant un peu dans l'espace toute la partie périphérique, si vous voulez, mais ne va pas exploser du tout. On répète ce qu'on a dit, donc poussière, disque protoplanétaire, et finalement, décor de toute taille. Parce que dans les astéroïdes ou dans les anneaux de Saturne, etc., vous pouvez trouver toutes les dimensions que vous voulez. Il y a quand même une petite nuance. Vous voyez que notre système solaire, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de matière entre les planètes. Donc, il va falloir qu'on explique ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le Soleil entre en fonction? Là, vous avez très, très schématisé la fusion nucléaire au centre du Soleil. À savoir, il y a que les noyaux du Soleil, c'est-à-dire environ 10% de la masse totale qui participe au processus de fusion, parce que c'est là où la température est assez élevée et la densité sont assez élevées. Ce qui est sûr, c'est que le Soleil commence à émettre de la chaleur. Quand on dit de la chaleur, c'est vraiment de la grosse chaleur. Par exemple, la Terre, en dehors de l'atmosphère, reçoit 1 kW et demi, grosso modo, hein, par mètre carré. Alors, 1 kW et quelques, c'est les radiateurs que vous avez à la maison, mais vous y chauffez une pièce. Imaginez de condenser tout ça sur un mètre carré et vous voyez la quantité de chaleur que ça peut faire. En plus, sur une planète de la taille de la Terre ou de Vénus, ça fait vraiment une grosse chaleur. à savoir que Vénus reçoit environ deux fois la quantité de chaleur de la Terre et Mars reçoit environ la moitié de la quantité de chaleur de la Terre. Ce serait un beau sujet de voir cette chaleur, comment elle est gérée après, mais on sortirait du domaine. Maintenant, les vents solaires, c'est des électrons, des protons, toutes sortes de particules que le Soleil éjecte par effet de toutes les réactions qui ont lieu. Donc, ce vent solaire, qui est d'ailleurs celui qui repousse la queue des comètes en direction opposée au Soleil. Au fur et à mesure où la solette ou une comète tourne, la queue est toujours en position opposée au Soleil. Donc, c'est ce vent-là qui repousse les gaz interplanétaires et qui nettoie la région entre les planètes. Résultat, les planètes les plus éloignées ont eu, non seulement elles sont moins chaudes, mais ont eu plus de temps pour amasser un maximum de matière. Donc, elles sont devenues plus grosses. Elles sont aussi plus froides, donc automatiquement, elles peuvent retenir même les composants les plus volatiles, comme l'hydrogène et l'hélium. Uranus et Neptune, qui sont plus petites, c'est parce qu'elles étaient dans une région où quand même on tourne plus lentement, et donc les collisions d'accroissement sont quand même plus rares, et au moment où le gaz interplanétaire a disparu, elles étaient à mi-chemin de leur formation. Elles sont aussi un peu plus de glace hein, aussi que de gaz. Donc tout ça, ça se fait relativement vite hein, à l'échelle de l'âge de la Terre, etc. On dit 100 millions. Ne me demandez pas pourquoi, parce que quand on se parle, on dit 100 millions comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de gaz interplanétaire, qu'il n'y a plus beaucoup d'impact de météorites ni de comètes, et on a quand même des beaux restes, c'est-à-dire la ceinture des astéroïdes compte quand même environ 5000 blocs de rochers de toute taille, hein, de tout petit à quelques centaines de kilomètres, ou une centaine de kilomètres. Et puis, il y a encore des résidus bien à l'extérieur du système solaire qu'on avait vu la dernière fois. Pour comprendre un peu mieux pourquoi, par exemple, une planète comme Jupiter ou Saturne peut retenir un gaz léger comme l'hydrogène et l'hélium et la Terre ne peut pas, par exemple, il nous faut deux concepts qui ne sont pas tout à fait évidents. Donc, j'essaie de les illustrer d'abord, et ensuite, vous ne regardez pas trop les valeurs numériques qui vont suivre.